L'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga.
Bonjour Martin Bobel.
Bonjour.
Tu travailles sur les questions de réemploi au sein du réseau francilien du réemploi, c'est bien
ouais,
ça ?
Oui, c'est ça. Je suis coordinateur du REFER, qui est un réseau régional de ressourcerie, recyclerie, structure Emmaüs. En gros, structure de réemploi solidaire.
D'accord. Le réseau francilien du réemploi, donc c'est un réseau qui est plutôt basé sur la région parisienne, mais vous avez un rôle au niveau national ?
Oui, alors on travaille beaucoup au niveau national et à ce titre, je suis vice-président du Réseau National des Ressourceries, qui est lui, du coup, l'entité qui représente l'ensemble des ressourceries en France. Ça représente à peu près 150 structures.
Avec toi, j'aimerais bien qu'on revienne sur les avancées relativement récentes sur la question des déchets. Alors, on parle aujourd'hui beaucoup d'économie circulaire, c'est très, très à la mode. Il y a une nouvelle loi qui est sortie en début d'année relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l'économie circulaire. Et dans ce cadre-là, notamment le REFER et d'autres acteurs du réemploi et de la réduction des déchets ont apporté leurs idées pour avancer un peu plus rapidement sur ces questions-là. Toi, tu as participé activement justement à la rédaction de différents amendements pour avoir une loi plus efficace pour la réduction des déchets. Tu peux nous présenter un peu le contexte ?
Ouais. En gros, notre constat historique avant la loi, c'est que nos structures ressourceries, recycleries, elles se sont extrêmement développées. Donc en fait, on a eu, je dirais, les 10 dernières ou 15 dernières années ont été très denses en développement de ce genre de projet. On a eu aussi de plus en plus de gens en France qui s'en préoccupaient, qui venaient participer, qui apportaient des objets ou qui venaient en acheter. Et en fait, on s'est rendu compte que on avait des difficultés structurelles à financer nos activités. En gros, ce sont des activités qui sont pas solvables, c'est-à-dire que ce sont des activités qui ont besoin d'intervention publique, soit en financement direct, soit en cadre législatif. Et du coup, on s'est posé la question de mieux intégrer, en gros, ces activités-là dans les cadres de loi. On s'est rendu compte qu'en fait, l'intégralité du milieu du déchet fonctionnait grâce à l'intervention publique. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a une industrie de gestion du déchet qui fonctionne très bien, c'est parce qu'on y injecte à peu près 11 milliards d'argent public chaque année et qu'on pose un certain nombre de règles contraignantes qui, par exemple, obligent les entreprises à trier ou à recycler. Et ces obligations génèrent des marchés.
C'est-à-dire que sur ces 11 milliards, on ne se rend pas bien compte. Il y a quand même un coût assez gigantesque de la collectivité pour gérer les déchets. Même les plus grandes entreprises ne sont pas vraiment rentables sans l'aide publique. Parce qu'on parle beaucoup du recyclage comme de la nouvelle économie.
Ouais. Alors, c'est assez marrant ce sujet de la rentabilité, en fait. Le recyclage, pour beaucoup, alors on a quelques secteurs de niche et en fait ça s'observe souvent sur le plan sectoriel, c'est-à-dire matériau par matériau. On a des secteurs de niche qui préexistaient avant l'intervention publique. Je pense particulièrement au recyclage de certains métaux. Mais on a des secteurs, par exemple, comme le recyclage des plastiques qui n'est pas du tout solvable ou le recyclage des cartons et qui est rendu rentable, entre guillemets, grâce au cadre législatif.
Si on prenait en considération tous les coûts de la gestion des déchets, ça deviendrait très économique. En fait, c'est économique d'injecter 11 milliards.
La gestion des déchets, ça coûte environ 17 milliards en France. Mais si on ne les gérait pas, les conséquences sanitaires et les coûts afférents à ces conséquences sanitaires seraient absolument dramatiques et ça coûterait beaucoup, beaucoup plus. En fait, la politique de gestion des déchets, c'était avant tout une politique sanitaire, pour éviter la pollution des sols, pour éviter la pollution des milieux, pour éviter le développement de maladies. En gros, pour assainir et améliorer les conditions de vie sociale, mais aussi, évidemment, la protection de la nature. Donc, en fait, l'intégralité des coûts qui, aujourd'hui, sont affectés à la gestion des déchets sont des coûts qui sont, en fait, quelque part, des investissements pour éviter, évidemment, des impacts non financiers sur l'écologie et des impacts financiers sur des questions, par exemple, de santé publique.
Et puis, en plus, en injectant cet argent public pour créer des emplois dans ce qu'on appelle l'économie verte, c'est beaucoup plus créateur d'emplois de gérer en amont les déchets que de traiter après les pollutions et les conséquences néfastes d'une mauvaise gestion.
Bien sûr. Alors, le secteur du déchet, il est assez divers, c'est-à-dire que, par exemple, quand on parle de traitement de déchets, on peut parler d'enfouissement, on peut parler d'incinération, on peut parler de recyclage, et on peut parler de réemploi. On peut aussi, évidemment, parler de prévention, c'est-à-dire de tout ce qui va être du travail autour de l'évitement de la production de déchets. C'est hiérarchisé hein, dans la loi française et dans la loi européenne, c'est-à-dire que l'enfouissement, doit être moins prioritaire que le réemploi, la réutilisation et la prévention. Et ces différents secteurs sont aussi des secteurs qui ont des externalités positives et négatives différentes. On parlait tout à l'heure d'emploi. Le secteur de l'enfouissement génère à peu près 850 fois moins d'emplois que le secteur du réemploi à quantité égale. C'est-à-dire que si vous mettez une tonne d'objets dans un trou sous terre, confiné soit-il, on crée 850 fois moins d'emplois que si vous mettiez une tonne dans une ressourcerie ou une recyclerie. Évidemment, les conséquences sanitaires quand vous passez par le réemploi sont quasi nulles, à l'endroit où les conséquences sanitaires futures de l'enfouissement peuvent être possiblement dramatiques. On le voit sur certains sites où on cherche à dépolluer des sites d'enfouissement, qui sont globalement des terres qui resteront inutilisables pendant des siècles.
D'accord, donc malgré la loi, donc on va revenir peut-être un petit peu plus en détail hein, sur cette nouvelle loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l'économie circulaire, malgré la pyramide dont tu parles, qui voit d'abord éviter les déchets, prévenir les déchets finalement, réduire les déchets par le réemploi, la réutilisation, et après le recyclage, et encore après les autres techniques qu'on appelle valorisation, mais qui ne sont pas tellement valorisation finalement, enfouissement ou incinération. Finalement, malgré tous ces avantages dont tu viens de parler aussi, plus de création d'emplois, etc., ce qui est dénoncé par le REFER et par beaucoup d'autres acteurs du réemploi, c'est que le réemploi est très peu aidé. Comment tu l'expliques ?
C'est pour ça qu'on s'est mobilisé sur le cadre législatif, ce qu'on n'avait jamais fait avant, en fait. On a plusieurs facteurs d'explication. Alors, le premier grand facteur, c'est que plus on monte dans la hiérarchie des modes de traitement, et plus ça coûte cher. Quand on pose la question de qui va payer, on a deux réponses possibles. Soit c'est l'État et donc les citoyens au travers de leurs impôts, soit c'est l'industrie au travers d'un impôt ou d'une contribution qu'on leur demanderait. D'ailleurs, c'est à peu près ce qui se passe aujourd'hui pour le recyclage. C'est un peu des deux, mais l'industrie contribue quand même beaucoup moins que les pouvoirs publics au recyclage. Pour le réemploi, on pourrait imaginer que si on avait une grille de lecture purement quantitative, que ça puisse coûter plus cher, toutes filières confondues, parce que encore une fois, c'est quelque chose qui s'observe un peu filière par filière. Réemployer des téléphones portables, ça pourrait être une filière solvable, c'est-à-dire sur laquelle on n'aurait pas besoin d'intervention publique. Mais réemployer, des grille-pains qui, par exemple, pourraient coûter plus cher en temps de réparation le coût de la production en Chine dans des conditions sociales dramatiques, des conditions écologiques aussi dramatiques, puisque c'est des coûts d'export et ainsi de suite, on se retrouve parfois du coup avec un besoin d'intervention publique qui dépasse le coût aujourd'hui du recyclage. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que d'après nous, si on décidait de payer par exemple même plus cher que le recyclage des activités de réemploi, on récupérerait des bénéfices économiques, sociaux et écologiques bien au-delà de ce qu'on aurait investi. Ça, c'est notre premier truc. On pense que certains ont pu s'arrêter au sujet du coût. Mais il y a aussi quelque chose d'autre. C'est que le réemploi tel qu'on le développe, il pose la question du déchet, mais il pose aussi plein d'autres questions. Nos structures sont des structures locales qui, à la base, sont nées du travail social, en fait. Notre histoire, c'est réemployer des objets pour accompagner des gens dans la grande précarité. C'est un peu l'histoire d'Emmaüs. Et on a mis énormément de temps à être regardés, en fait, par les politiques déchets comme des structures qui participaient sérieusement d'une politique écologique autour du sujet de la consommation et autour du sujet de la gestion des déchets. Donc, notre deuxième facteur, je pense, d'oubli au sein de ces politiques publiques-là, c'est que nos structures étaient un peu à la lisière entre la vie culturelle, la vie sociale et la vie du secteur du déchet. Je dirais le troisième facteur, c'est qu'on peut difficilement industrialiser le réemploi. Et du coup, j'irais le logiciel déchet, qui en fait est majoritairement industriel, qui traite des très très grosses quantités de déchets, était pas très enclin à se préoccuper ou en tout cas à fabriquer une politique locale constituée de milliers de petits acteurs territoriaux. Et en plus, qui dit milliers de petits acteurs territoriaux dit aussi hétérogénéité dans ces acteurs-là, hétérogénéité de moyens mis en œuvre, mais aussi de, je dirais, de pratiques culturelles, de visions politiques. Et c'est très difficile de légiférer en direction de ce secteur-là qui est en fait assez hybride et hétérogène. Voilà. Donc même nous, quand on a réfléchi à quelles pourraient être les mesures idéales pour développer les acteurs du réemploi solidaire, on s'est frotté à cette difficulté-là, c'est-à-dire de trouver des mesures simples qui auraient un impact sur tout le monde. Donc ça nous a demandé énormément de temps de travail sociologique, juridique, administratif, pour comprendre un peu quels peuvent être les points communs qui nous rassembleraient tous et qui nous permettraient à tous de se développer.
Alors aujourd'hui, dans la nouvelle loi, il y a quand même des avancées pour le réemploi.
Oui, il y a des avancées. Elles sont pour l'instant encore à confirmer parce que, évidemment, le diable se cache souvent dans les détails et on attend des décrets d'application qui vont confirmer si oui ou non les avancées législatives vont être réellement efficaces. Mais notre objectif initial était de dire qu'il nous faut un système national qui va affecter une partie de l'argent que l'industrie contribue pour financer le recyclage au réemploi. Car en gros, aujourd'hui, les contributions de l'industrie à la gestion des déchets financent uniquement le recyclage et pas le réemploi. Donc notre objectif était de dévier une infime partie, c'était 5% de ces contributions-là, pour qu'elles soient affectées de manière ferme à l'échelle nationale au financement du réemploi.
D'accord. Ce qui est plutôt logique parce qu'un des principes de base quand même, c'est aussi le principe pollueur-payeur. Et ce sont les industries productrices de tous ces objets, de tous ces déchets qui devraient contribuer à la politique globale de réduction des déchets.
Exactement. Le principe pollueur-payeur, c'est un principe qui est né à peu près dans les années 80, quand on s'est rendu compte que la consommation augmentait, on était en plein pic industriel. La gestion des déchets incombait aux villes et donc aux finances locales, donc c'est les citoyens qui la payaient. Et vu cette augmentation fulgurante, on s'est dit que ce serait important qu'au travers de ce principe pollueur-payeur, les metteurs en marché, ceux qui fabriquent des objets et les distribuent, y participent pour tout ou partie. À cette époque-là, les lobbies de l'industrie se sont mobilisés pour éviter de voir arriver un impôt, par exemple un impôt européen, ce que c'est à l'époque, un impôt sur lequel ils auraient possiblement eu peu de contrôle et qui avait à l'époque pour ambition de faire contribuer l'industrie en totalité du coût des gestions des déchets. C'est-à-dire, on aurait pu à l'époque gagner un impôt qui faisait en sorte que c'était exclusivement l'industrie metteur en marché distributeur qui finançait la gestion des déchets et pas les citoyens. Aujourd'hui, je dirais à peu près 20 ans plus tard, la mise en œuvre de ce principe dans le secteur des déchets, l'industrie contribue environ à 7% du coût des déchets en France. Donc on est encore très loin d'avoir permis, en tout cas d'avoir appliqué le principe pollueur-payeur. Et c'est une grande guerre, je dirais, culturelle qui s'est ouverte en fait à l'industrie et aux citoyens. Car l'industrie a beaucoup appuyé le fait que le pollueur, c'est le citoyen qui jette un objet, à l'endroit où le politique à cette époque-là essayait d'insuffler que le choix industriel de production avait un impact très fort sur la pollution. L'exemple type, c'est Coca qui passe de la bouteille réutilisable, c'est-à-dire la bouteille consignée, à la bouteille en plastique et à la canette en aluminium. Et à cette époque-là, Coca-Cola s'est mobilisé énormément pour protéger son choix industriel dramatique pour l'environnement en investissant énormément d'argent dans des associations qui formaient les citoyens aux gestes de tri et qui, en fait, indirectement, pointait du doigt le citoyen comme le pollueur final de l'acte de consommation, pour éviter de se voir responsable à 100%, en fait, d'un choix industriel dramatique.
Alors ça, c'est vrai que c'est la grande question donc, de l'éco-conception, puis des mouvements zéro déchet. Il y a énormément de gens, on a entendu parler de défis zéro déchet, d'associations zéro déchet, de familles qui essayent de vivre vers le zéro déchet. Donc c'est super, l'acte citoyen, responsable, etc. Mais au final, c'est quand même se remettre la responsabilité sur soi, alors que si dès la base de la conception des produits de grande distribution de tous les jours, il y avait une vraie réflexion, une infime réduction, tu prends l'exemple de boissons sucrées, s'ils faisaient un tout petit effort, eux, ça ferait tellement plus d'impact que quelques centaines ou milliers de familles qui sont très, très zéro déchet. Quoi.
D'après nous, c'est évident. Enfin, il faut évidemment pas négliger l'impact culturel des actions individuelles, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on néglige énormément la puissance publique et notre capacité à poser des règles collectivement pour limiter un certain nombre d'excès. Aujourd'hui, le législateur est très faible sur ces sujets-là, tant à l'Union européenne que pour la France. Les lobbies de l'industrie sont extrêmement présents. Et ce que nous, on se dit, c'est que le mouvement zéro déchet, avec cette tendance, je dirais, de responsabilité individuelle, peut avoir son sens pour fabriquer une culture collective en critique du recyclage ou en critique de la société de consommation. C'est important de commencer par soi, en effet, mais le combat le plus important à mener aujourd'hui, il est politique et législatif. Dans les rangs, dans les couloirs des instances législatives sont présents 99% de lobbies industriels et 1% d'ONG. Mmh. Moi, c'est mon vécu au quotidien. Ce sont des sujets complexes, mais en effet, il suffit de deux mots dans un cadre de loi et on change la donne sur la vie du plastique dans le monde, enfin, en Europe à minima. Et ça, oui, en effet, l'énergie qu'il faudrait aujourd'hui pour changer quelques mots dans un texte de loi et changer radicalement la face de la consommation est certainement moins forte que l'énergie cumulée qu'il faudrait pour que chacun n'achète plus de bouteilles en plastique. Voilà. En termes d'efficacité, de temps à donner et d'énergie à donner, j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux se tourner sur le cadre politique pour s'auto-réguler, c'est-à-dire se réguler collectivement au travers du législateur, que de se contenter d'agir exclusivement chez soi. Quoi.
Alors, pour parler d'avancées positives, donc cette loi dont on parle relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire et à l'économie circulaire, il y a quand même des avancées significatives. Donc, quelques avancées sur le réemploi. Donc, pour finir sur le volet réemploi, quand même des facilités, des encouragements pour par rapport aux achats d'occasion, rendre possible, par exemple, de la part des collectivités, d'acheter des meubles d'occasion. Il y a quand même des avancées. On parlait là des emballages. Il y a toute une réflexion qui n'a pas vraiment abouti sur la consigne des bouteilles en verre, essayer de revenir vers quelque chose d'intéressant, sur le plastique. Donc là, pas grand-chose de merveilleux, hein, pas énormément d'avancées. Par contre, j'aimerais bien juste avoir un petit point de vue critique par rapport à l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires. Parce que là, donc, je pense que ça concerne quand même les acteurs du réemploi. Parce qu'on avait déjà des obligations d'interdiction de destruction des invendus alimentaires. Et d'ailleurs, la loi a été un petit peu plus loin par rapport au gaspillage alimentaire. Mais là, sur le non alimentaire, c'est-à-dire des stocks, par exemple, gérés pour ne pas les citer par des Amazon, Cdiscount, etc., qui ne seront plus détruits et qui peuvent être peut-être réinjectés au niveau des acteurs du réemploi comme les ressourceries, recycleries.
Alors, ce sujet de la destruction des invendus, c'était possiblement une bonne avancée. Mais je disais tout à l'heure, le diable se cache un peu dans les détails. Sur le plan juridique, destruction veut dire enfouissement, incinération. Destruction ne veut pas dire recyclage. Et donc, en fait, la loi qui interdit la destruction des invendus non alimentaires permet de mettre les objets non vendus dans la poubelle jaune, c'est-à-dire la poubelle de recyclage. Peut-être qu'elle aura un effet positif en incitant les metteurs en marché, la grande distribution, les plateformes Internet comme Amazon à donner leurs invendus. Mais elles ont toujours une porte de sortie, si elles ne souhaitent pas le faire, qui consiste à mettre les objets dans une poubelle en direction du recyclage. Donc, il y a eu un moment un peu politique, médiatique sur le sujet de l'interdiction de la destruction. En fait, il se basait sur un jargon juridique qui quelque part, je dirais, trompait l'imaginaire collectif qu'on se fait de la destruction.
On n'imagine pas, en fait, pourquoi ils détruisent des choses qui pourraient être vendues, qui n'ont pas été vendues. Mais c'est tout simplement pour pas faire baisser les prix du marché, c'est ça ?
Ouais, en partie. Pour pas faire baisser les prix du marché, puis aussi pour pas perdre de parts de marché, parce que possiblement l'ensemble des invendus, s'ils étaient revendus par d'autres plateformes ou des associations locales, l'industrie souvent craint de se voir perdre des parts de marché à cause de la revente d'occasion d'objets qu'ils n'auront pas vendus eux-mêmes.
On voit beaucoup de grandes enseignes qui essayent d'organiser eux-mêmes un marché de la seconde main, un marché d'occasion en revendant les vélos, les skis, etc., qu'ils ont pu vendre une première fois. C'est quelque chose d'assez nouveau. Et, par exemple, aussi des chaînes qui vendent des vêtements, qui récupèrent en donnant des bons d'achat pour éviter que ce soit revendu en l'état.
Alors oui, c'est un phénomène assez nouveau. Nous, on le regarde avec beaucoup d'attention et surtout une bonne dose de scepticisme, à savoir sauver la vie des objets, c'est une bonne chose. Mais ce qui aujourd'hui pose un problème général, structurel, c'est-à-dire génère cette crise écologique, est un facteur, enfin, l'accumulation de facteurs extrêmement multiples et complexes. J'ai tendance à penser que si Ikea demain décidait de réemployer un certain nombre de ses meubles, ça changerait pas son modèle économique qui consiste à produire du bois aggloméré dans de la colle, du bois extrait de processus de déforestation extrême, avec un modèle économique mondialisé qui coûte des millions de tonnes de carbone. Voilà. Donc peut-être, j'ai tendance à penser avec un peu de crainte que le réemploi par les grandes enseignes, c'est un peu le nouveau greenwashing post-compensation carbone. Quoi. Donc tant qu'on ne change pas les modèles économiques de production, mais aussi, j'en parlais tout à l'heure, on peut parler de l'économie circulaire, c'est-à-dire que tant qu'on reste tourné sur un principe purement technique d'économie de coût de carbone, je ne suis pas certain qu'on réponde à hauteur de l'enjeu de la crise écologique. Il est important, voire même absolument indispensable, de réintégrer des logiques sociales dans la manière avec laquelle on produit, mais aussi des logiques économiques de la manière avec laquelle on finance la production. Donc, tant qu'on n'aura pas intégré des réformes structurelles sur l'économie de marché, la place du travail et des hommes dans cette économie de marché, on pourrait réemployer des tonnes d'objets, c'est super, mais ça ne changera pas la face du monde.
Si on revient sur la façon de produire, cette question de l'industrialisation, aujourd'hui, le monde des déchets, comme le monde économique de manière assez générale, connaît des mouvements comme ça de monopolisation de marché où on voit des grands opérateurs qui prennent un marché au niveau régional, national, européen, international. C'est la monopolisation, la concentration entre les mains de certains grands acteurs. Est-ce que pour le réemploi, vous craignez une industrialisation ?
C'est un très gros risque pour nous. C'est d'ailleurs le plus gros risque de mon travail. Hein. On travaille à légitimer un secteur qui est historiquement associatif, qui réemploie des objets, mais au fin des externalités positives qu'il produit. C'est-à-dire que nous, réemployer des objets, c'est pas une fin en soi, en fait. On réemploie des objets pour faire du travail social, pour faire du lien social aussi, c'est-à-dire pour créer des lieux d'initiative, de convergence de citoyens dans les villes et les campagnes. On réemploie des objets pour diffuser une culture et participer d'une construction culturelle commune sur la crise écologique, les manières avec lesquelles on pourrait y répondre concrètement et ainsi de suite. Alors en fait, ce sont des lieux humains dans lesquels on essaie un peu de refabriquer le monde qu'on rêverait demain. Et de l'autre côté, on peut avoir des acteurs qui vont industrialiser un certain nombre de processus de réemploi sur des filières comme typiquement le téléphone portable ou l'électronique et qui... en fait, ne sont que des prestataires de services sur de la vente d'objets un peu décarbonés. Voilà. Mais quelque part, je vous donne un exemple type. On a une ancienne qui, là, pendant le confinement, a levé 110 millions d'euros de fonds d'investissement pour développer son entreprise et qui vend téléphones portables et ordinateurs reconditionnés en France.
Donc reconditionnés, c'est-à-dire on les répare un peu, on les vérifie, voilà, on les revend d'occasion.
D'occasion reconditionnée garantie. Une partie des fonds, une partie de ces 110 millions de levées de fonds ont été apportés par Goldman Sachs. Voilà, Goldman Sachs, énorme banque qualifiée grandement responsable de la crise des subprimes. Ça, d'après nous, c'est une dérive classique d'un modèle qui tend à l'industrialisation ou qui prendrait pas en compte les grands enjeux économiques de demain. Voilà. Et puis, quelque part... typiquement, l'industrialisation du réemploi sur l'électronique s'est beaucoup fait, par exemple, pour le téléphone portable, sur le rachat de votre ancien téléphone. C'est-à-dire que vous voulez acheter un iPhone 10, on va vous racheter votre iPhone 8 à pas cher, on va le reconditionner et le vendre sur Internet. Ça peut avoir des effets de bord très négatifs sur la conso, c'est-à-dire que c'est aussi une forme d'incitation à l'achat du neuf. En rachetant votre ancien téléphone, on génère un signal prix positif pour l'iPhone 10 qui coûterait 200 balles moins cher. Et voilà. En fait, en gros, faut qu'on fasse assez attention vers là où on veut aller. C'est-à-dire, on a vite tendance à penser que industrialiser des processus, c'est une bonne chose parce que on va massifier, augmenter en quantité et que c'est le quantitatif qui compte. Et ben, moi, je pense qu'il faut qu'on fasse assez attention à ça parce que de l'autre côté, il y a des modèles je dirais, moins performants sur le plan quantitatif, mais qui sont mille fois plus performants sur le plan social, sur le plan écologique, sur le plan culturel, et surtout sur le plan de la fabrique des modèles de société de demain. Et c'est souvent, en fait, le développement de l'un se fait souvent au dépend de l'autre, et c'est particulièrement aujourd'hui ce qu'on regrette nous.
Juste après le confinement, donc tous ces acteurs du réemploi se sont retrouvés donc en grande difficulté parce qu'ils ont dû fermer pendant le confinement. Et l'ADEME, qui est l'agence d'État, hein, qui travaille sur la maîtrise de l'énergie et sur les questions de déchets, a voulu lever un fonds d'urgence pour sauver tous ces acteurs. Et là, indignation de tous les acteurs du réemploi, Bercy refuse cette création d'une aide d'urgence. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe?
On n'arrive pas bien à comprendre. Le truc dont on est sûr, c'est que c'est d'après nous une décision absolument inepte. À savoir que Bercy proposait un fonds d'urgence pour soutenir ces structures. On a perdu à peu près 50 millions d'euros sur la période de crise. Et l'ADEME a proposé un fonds basé sur des crédits qu'ils n'avaient pas consommés, c'est-à-dire des projets qui auraient dû se réaliser en 2020, mais ne se sont pas réalisés à cause de la crise. C'est-à-dire que c'est des reliquats de budget. L'ADEME prépare un fonds pour soutenir nos structures et soutenir la relance de nos structures, et Bercy bloque. Avec des arguments aujourd'hui peu acceptables, on a plutôt tendance à penser que c'est un réflexe du vieux monde. Nous, on espère encore que Bercy fasse demi-tour. D'après nous, c'est une décision qui, en fait, est un peu fondée sur un vieux réflexe. On ne donnera pas de subventions plus, il faut restreindre les budgets au maximum. Et l'économie sociale et solidaire est un peu le parent pauvre du développement industriel. C'est-à-dire qu'à côté, le même Bercy débloque 20 milliards pour les industries automobiles et aéronautiques, sont des industries qualifiées stratégiques, mais extrêmement polluantes. D'ailleurs, qui, après même ces annonces, ferment des emplois en France. Voilà. Alors que d'autre côté, on a des secteurs qui ont été super présents pendant la crise, qui sont hyper demandés par la population, qui demandent à peine 10 millions d'euros pour se relever de la crise. Notre secteur, il pèse à peu près 20 000 emplois. Pour nous, c'est une décision absolument incompréhensible, elle est même scandaleuse.
D'accord. Si finalement on imagine ce modèle économique et si on recontextualise un petit peu par rapport à la crise Covid qu'on vient de vivre, justement pour être plus résilient, pour avoir un système économique qui réponde mieux à des contextes inattendus, difficiles, complexes, on peut quand même imaginer que des acteurs, tu parlais de diversité aujourd'hui, des acteurs du réemploi sur le territoire, c'est ça qui permet la résilience finalement.
Pour nous, ça a été une manière de montrer ce pourquoi on travaille là-dedans, c'est-à-dire ce pourquoi on y croit. En fait, pendant la crise, nos associations, elles ont toutes fermé, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas pu vendre, donc elles ont perdu énormément d'argent dans cette période-là, mais elles se sont pas arrêtées de travailler pour autant. C'est-à-dire que on a eu énormément d'associations qui ont fait appel à leur réseau de bénévoles, à leur réseau de personnes engagées, voire même à leurs salariés, pour fabriquer des masques, pour distribuer des denrées alimentaires, pour donner des objets à des initiatives sociales qui en avaient besoin. J'ai la ressourcerie à côté de chez moi qui a distribué des objets à l'aide sociale à l'enfance, qui fabriquait des foyers pour les enfants Covid, qui ont distribué des masques à l'hôpital, mais aussi des meubles, des objets dont ils avaient besoin. Et en fait, ça, c'est extrêmement indispensable pour la résilience écologique future. Ce qui nous est arrivé avec le Covid se reproduira d'une manière ou d'une autre. Pour nous, une société résiliente, c'est une société dont son tissu social est dense et solide, c'est-à-dire des gens qui se connaissent, des gens qui s'engagent sur des initiatives auxquelles ils croient, et des gens qui apprennent aussi à travailler ensemble, mais c'est indispensable, c'est vraiment hyper important. L'acte de consommation n'est pas un acte de structuration du tissu citoyen. Des structures locales associatives, donc à portée non lucrative, et c'est très important pour l'engagement, participent de la création de ce ciment social, en fait, et aussi de ce ciment à l'ouvrage. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont habitude de bosser ensemble, qui maîtrisent leur outil de production, qui pensent leur organisation ensemble, et qui se connaissent depuis un certain temps, ou qui peuvent appeler leurs voisins pour venir participer de l'initiative à laquelle ils participent. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait, pour la résilience de demain.
C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet. Remember.